Alors, Faustin Linicola, bonjour.
Bonjour, Jamon.
Vous êtes retenu comme artiste de l'an 2016 de la ville de Lisbonne. En quoi consiste-t-il ces choix et qu'est-ce que ça représente pour vous?
En tout cas, c'est une invitation qui marque quand même une très forte reconnaissance du travail. Ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Si à un moment, toutes les institutions culturelles, tous les théâtres, les festivals de la ville de Lisbonne se sont réunis et que tout ce monde décide que pour une année, ils vont construire tout un programme autour du travail d'un artiste, c'est que c'est vraiment une étape de reconnaissance de plusieurs années de travail. Et donc, comme on dit, tous les jours ne sont pas roses, mais quand il y a des jours roses, ça nous donne la force de continuer. Et donc, d'être choisi pour cette année comme l'artiste de la ville de Lisbonne, en sachant que c'est un programme qui se passe tous les deux ans, où les institutions culturelles de la ville se réunissent et elles choisissent un artiste et elles bâtissent tout un programme autour de cet artiste, autour de son travail, et que jusqu'ici il n'y a jamais eu d'artiste africain, et que ce soit la première fois qu'ils choisissent un artiste africain et que ce soit moi. Déjà, je me sens très honoré. Et donc, cet honneur-là vient aussi avec une responsabilité, un sens de responsabilité, en me disant qu'il n'y a jamais eu d'Africain là-bas. Donc, c'est le premier Congolais qui est mis à l'honneur comme ça. Qu'est-ce que je peux faire dans ce moment-là pour tracer une route pour d'autres derrière moi? Donc, c'est pour ça que je parle de responsabilité. Et ce programme qui va s'étaler sur toute l'année 2016 va consister en une rétrospective du travail de création des studios Kabako, donc c'est-à-dire 15 ans de studios Kabako. Cette année-ci, en juin, nous allons totaliser 15 ans d'existence en tant que structure. Et donc, nous allons revisiter plusieurs pièces. La plus vieille qu'on va revisiter s'appelle Triptyque sans titre, que nous allons présenter en novembre. Et puis, à côté de ce travail de répertoire de la compagnie, il y aura aussi un travail avec les artistes de Lisbonne. J'ai déjà présenté une pièce pour le Ballet National, ça c'était le premier projet qu'on a présenté en janvier. Il y aura après une création pour les élèves finalistes de l'École Nationale de Théâtre et Cinéma. Il y aura aussi une création que je vais diriger avec les acteurs du Théâtre National. Et puis il y aura d'autres collaborations encore avec les artistes de Lisbonne. Un autre volet sera de présenter le travail de certains de mes collaborateurs, dont Papy et Botani, qui développent un travail très important en milieu urbain et qu'on va aussi présenter à Lisbonne. Voilà.
Faustin Linicola, c'est un jeune qui a un parcours assez riche. C'est l'une des grandes figures de la danse contemporaine en Afrique et dans le monde aussi. Rien qu'à voir les tournées internationales, voire mondiales, effectuées après plus d'une création. Alors, si on doit retracer le parcours de l'artiste que tu es, que dire? Comment Faustin s'est retrouvé dans la danse?
Alors, il faut dire que moi, je n'ai jamais vraiment rêvé d'être un artiste. Peut-être tout simplement parce que j'ai grandi à Kisangani, et dans cette ville-là, dans les années 80, quand j'étais adolescent, ça n'était pas, il n'y avait pas d'exemple des gens qui embrassaient le théâtre ou professionnellement dans la ville. Même s'il y avait un noyau très fort de théâtre, mais c'était un théâtre amateur. Mais amateur au sens propre et noble du mot, c'est-à-dire des gens qui aiment le théâtre et qui ont commencé à faire partager cette passion du théâtre. C'est comme ça que j'ai découvert l'atelier théâtral du Centre culturel français. Et c'est là que j'ai été initié à la scène. Mais je dois dire peut-être que j'ai eu la chance de rencontrer à l'atelier théâtral du centre des aînés, comme quelqu'un qui n'est plus dans le théâtre aujourd'hui, qui est journaliste, Goudier Pépito, comme Richard Kamba, dit Kabako. Et c'est des aînés qui m'ont fait comprendre une chose par rapport au théâtre, que le théâtre c'était d'abord une présence, ce qui veut dire une présence du corps, face à d'autres corps qui regardent. Et plus tard, quand j'ai commencé à lire la théorie, j'ai lu un grand monsieur du théâtre européen qui s'appelle Peter Brook, dont le livre le plus célèbre s'intitule L'espace vide. Et l'espace vide commence par, on peut prendre n'importe quel espace et l'appeler scène. Quelqu'un traverse cet espace pendant que quelqu'un d'autre regarde, cela suffit pour que l'acte théâtral puisse commencer. Mais on faisait tout ça en amateur, c'est-à-dire on aime ça, mais on n'a jamais envisagé d'en faire une profession. Et entre-temps, aussi, j'ai commencé à écrire. J'ai commencé à écrire de la poésie et de la prose à 14 ans, quand j'étais à l'école secondaire, à l'Institut Mahéléen Kisangani. Et alors, il y a des jeunes qui commencent à écrire de la poésie, je suppose qu'ils ont des petits poèmes d'amour à envoyer aux copines. Mais là, nous avons commencé à écrire avec une très forte conscience des gens qui ont écrit dans le monde noir avant nous. Les Césaire, les Gontran Damas, les Senghor. Nous arrivions avec cette conscience que nous étions leurs héritiers. Et ça aide à forger une conscience. Une conscience à la fois d'appartenir à une histoire humaine, mais aussi une histoire artistique, une histoire littéraire. C'est seulement quand j'ai fini mes études secondaires en 91 et que je ne pouvais pas aller à l'université parce que c'était le début des troubles avec le régime Mobutu, on ne va pas revenir sur l'histoire là. Et donc, il avait fait fermer tous les campus universitaires. Alors, plutôt que de rester à la maison avec des copains, on a monté une troupe. Et d'abord, en tournant dans la ville de Kisangani, dans les écoles, dans les cours des églises, des salles amicales, on a commencé à jouer. Et là, on présentait parfois des adaptations zaïroises, des classiques français, Molière, Marivaux, surtout des comiques. Mais aussi, parfois, on faisait des spectacles vraiment physiques, d'expression corporelle, comme on disait alors, basés sur le mime. Et 2 ans avant, il y avait, nous avions rencontré Maître Wambaï qui était venu pendant 2 semaines animer un atelier sur l'expression corporelle avec nous à Kisangani. Et donc je pense que tout ça nous a nourris pour commencer à monter des spectacles d'expression corporelle basés sur les contes. Et je pense que c'est tout ça qui m'a préparé à la rencontre avec la danse plus tard, parce que avec mes amis, nous avons fait ces spectacles-là de comédie, mais aussi d'expression corporelle pendant 2 ans. En 93, je suis parti de Kisangani pour Nairobi, au départ pour aller à l'université. Mais c'est sur place à Nairobi que j'ai commencé à me poser la question. Je me dis, mais au fond, pourquoi je veux tant aller à l'université? Qu'est-ce qui s'est passé depuis 2 ans? Qu'est-ce que j'ai fait depuis 2 ans? Qu'est-ce que ça a représenté pour moi? Et là, soudain, ce n'était plus clair que je voulais vraiment aller à l'université et étudier le droit et la biologie de conservation. Je voulais combiner les deux et travailler dans l'écologie. Donc, j'ai dit, bon, comme ce n'est plus clair, moi je reste là. Et je ne vais pas à l'université, je vais réfléchir, je vais voir qu'est-ce que je fais. Et entre-temps, j'ai commencé à aller au Théâtre National de Nairobi. Il y avait une audition pour une comédie musicale et j'y suis allé. Et plus le temps passait, plus ça devenait clair que c'est ce que je voulais faire. Et en 95, il y a eu un stage de danse contemporaine. Et donc, qui n'existe pas, c'était très, très récent comme discipline artistique sur le continent. La danse contemporaine telle qu'on la pratique aujourd'hui. Alors, l'Institut français avait organisé un stage avec un monsieur qui est ivoirien, basé en France depuis fort longtemps, donc Alphonse Thirou, qui est de la génération de Germaine Akoni et d'autres grandes personnalités comme ça. Mais lui n'a jamais été vraiment créateur, plus un pédagogue. Et Thirou, en faisant sa tournée, qui s'appelait Pour une danse africaine contemporaine. Donc, nous sommes allés voir, ils ont invité des acteurs, des gens qui travaillaient dans des troupes traditionnelles, ou qui dansaient dans des spectacles de cabaret dans les boîtes de nuit. Ils nous ont tous invités. Et j'ai vu ce que Thirou faisait. Je me dis, mais si c'est ça qu'il appelle danse contemporaine, alors moi, ce que j'ai toujours fait là, et que j'appelais expression corporelle, c'est de la danse. Alors, et c'était en 95, et depuis,
il y a eu le déclic.
Il y a eu ce déclic. On a travaillé pendant 2 ans avec deux autres amis à Nairobi. Et en 97, nous avions créé notre premier spectacle. C'est que ces 2 années-là, c'était vraiment, on était comme un laboratoire entre nous pour essayer de comprendre c'est ça. Et moi, ayant ce bagage littéraire aussi, j'ai passé beaucoup de temps dans les bibliothèques. Et j'ai découvert finalement qu'il y avait une très très grande littérature sur la danse contemporaine occidentale. Ce n'est pas notre danse contemporaine parce qu'elle n'était pas encore documentée comme ça et elle était en train de naître et de devenir un mouvement. Mais en étudiant la danse contemporaine occidentale, surtout américaine, européenne, et plus tard j'ai découvert aussi ce qu'on peut appeler la danse contemporaine japonaise, née après l'expérience de la bombe atomique, quand on leur a jeté la bombe atomique, ils ont inventé dans les années 50 une danse qu'ils appellent le buto, en dansé, en, d'abord juste en lisant, et puis on a commencé à voir des vidéos et tout, que j'ai commencé à forger ma propre route. Parce qu'il ne s'agissait surtout pas de copier les autres. Ayant commencé par écrire, je savais que les autres... De même, Senghor, mais surtout Césaire, parce que de la génération des poètes de la négritude, moi, ma référence est Césaire. De même, Césaire m'a aidé à comprendre ma route, là, en lisant ce que faisaient les Occidentaux et plus tard les Japonais. Ça m'a permis de comprendre ma danse contemporaine, qui devrait être une danse qui est liée à qui je suis. Alors, qui suis-je? Je suis congolais, je suis africain, je suis noir, et je suis né dans d'une famille qui est spécifique, mais j'ai étudié, comme tout congolais qui va à l'école, dans un système qui est l'héritage colonial. Et donc, je peux dire que je suis aussi un occidental. Et comment? Je négocie ma place dans le monde avec tout ça.
Et du coup, quelques années plus tard, en juin 2001, on a assisté à la création des studios Kabako, qui totalisent cette année 15 ans d'existence. Brièvement, en termes de bilan, qu'est-ce qui t'a plus marqué durant ces 15 ans des studios Kabako?
Alors, déjà, les studios Kabako, c'était le fruit d'un retour au pays. Au bout de 8 ans à l'étranger, parce que assez vite après notre première création à Nairobi avec Opie Okatch et Afra Tamanbergen, qui étaient mes camarades avec qui nous avons créé la première compagnie de danse contemporaine en Afrique de l'Est, qui s'appelle la compagnie Gara, qui existe toujours et qui a été primée lors du concours chorégraphique interafricain à Luanda en 98, et ça nous a ouvert les portes des festivals et des résidences en Europe. Et donc, ça a duré jusqu'en 2001, et en 2001, ça devenait très clair pour moi que je voulais revenir au pays et développer ça chez moi. Parce que j'ai compris en ce moment-là que ce qui me tenait à cœur vraiment, c'était de raconter des histoires de chez moi, pas l'expérience de l'exil. Mais c'était aussi avec cette idée que il fallait créer une plateforme. C'est pour ça que je n'ai pas appelé ça compagnie, mais j'ai appelé ça les studios. Parce qu'un studio, c'est un lieu où les artistes cherchent.
Un laboratoire.
Parfois, ils trouvent, mais c'est juste ces lieux où ils vont chercher. Et donc, en revenant en 2001, je suis revenu d'abord dans le cadre du FIA, 2001.
Festival international de l'acteur.
Le Festival international de l'acteur 2001. Et donc c'était notre regretté vieux Nono Bakwa qui m'avait contacté. J'étais en Europe. Pour le FIA 2001, il voulait introduire un atelier de danse contemporaine. Au départ, il pensait à un artiste sud-africain, Moïse Sekwama. Et puis plus tard, on leur a parlé d'un Congolais qui est en France et qui veut venir. Donc ils ont profité, ils m'ont fait venir. Et pour moi, c'était clair que je n'allais pas repartir en Europe après. Du moins, pas pour aller rester là-bas. Donc pour moi, j'ai fait l'opération inverse. Parce que souvent, on dit, oui, dans un artiste d'ici, quand il part en Europe, il reste, il revient pas. Et bien là, pour moi, c'était très clair que je voulais rentrer. Et grâce au FIA, j'ai épargné mon billet d'avion et je revenais. Et comme ça, mes petites économies, je pouvais les mettre ailleurs pour vivre ici parce que je ne savais pas dans quoi je me lançais. Et pendant le FIA, j'ai animé cet atelier. Il y avait 18 personnes. Et parmi les 18 après, j'ai pu inviter 10 personnes pendant un atelier de 3 semaines, qui était très intensif, et c'est au bout de ces 3 semaines que j'ai sélectionné les 4 personnes avec qui nous avons commencé les studios Kabako. Mais il y a eu une cinquième complice, donc il y avait 4 artistes, Edwige Makanzu, Manri Simbujo, qui nous a quittés, ça fera 10 ans cette année, Jojo Kazadi et Papi Ebutami. Jojo et Papi, nous continuons toujours à travailler ensemble. Et la cinquième complice, c'était Bibi Chumbo. Parce que, j'ai retrouvé une âme sœur, et je disais, c'est important de faire un chemin ensemble. Je l'ai invité à être administratrice de la compagnie. Elle me dit, ben, je n'ai jamais été administratrice d'une compagnie. Elle me dit, ben, moi non plus, je n'ai jamais vraiment dirigé tout seul un projet comme ça. Gara, on était trois, c'était un collectif. Et donc, on va tous apprendre ensemble, comme les danseurs vont apprendre ensemble. Et donc, là, si je raconte un peu tout ça, c'est parce que ça permet de situer la philosophie des studios de Tabaco.